Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'histoire des relations entre les deux rives de la Méditerranée est faite de circulations et de confrontations, de partages et d'affrontements, de mémoires d'empires, romains, ottomans ou coloniales, qui ont laissé des traces profondes et de vives blessures loin d'être toujours cicatrisées. Ces failles historiques et mémorielles peuvent-elles être surmontées et si oui, sur quelle base? Une autre histoire ne peut-elle pas s'écrire à la lumière d'une réalité judéo-musulmane inscrite au Maroc, par exemple? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Mohamed Kembib, qui a participé à la rédaction du dictionnaire de la Méditerranée dont nous parlions la semaine dernière dans Orient Hebdo et qui a travaillé sur la question de la mémoire et de la place du judaïsme dans la société marocaine. Une émission enregistrée à Marseille en public lors de la 23e édition des Rencontres Averroès.
Orient Hebdo sur RFI.
Mohamed Kembib, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire contemporaine à l'université Mohamed V de Rabat, professeur associé à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à Oxford. Vos recherches portent sur les mutations de l'État et de la société au Maroc, sur les questions de minorités ethno-religieuses, on va en parler, et sur l'histoire du temps présent. Alors, vous dites qu'une autre histoire peut être écrite, différente de celle d'aujourd'hui, que l'on pourrait peut-être qualifier d'histoire clivante. Alors, quel type d'histoire nouvelle pouvons-nous raconter aujourd'hui, et notamment au Maroc?
Il me semble que pour que l'histoire ne soit pas clivante, que l'on soit au Maroc ou ailleurs, il serait utile d'adopter une approche globale, c'est-à-dire de tenir compte d'un certain nombre de données essentielles, ou que l'on considère comme essentielles, de manière à pouvoir interpréter les faits et les événements de manière logique, sans rien occulter, hein, ni les aspérités, ni les vicissitudes, les hauts et les bas, etc. Et à mon sens, il y va de la crédibilité de l'historien, de ne pas justement de s'en tenir aux faits et de les interpréter, d'essayer d'en comprendre la logique en respectant bien sûr les critères de la discipline qui sont fondamentalement celle de la neutralité ou de l'objectivité, si on peut utiliser ce terme-là.
Il faut donc regarder tous les éléments, y compris ceux qui ne nous plaisent pas.
Naturellement. Et surtout ceux qui ne nous plaisent pas. Parce que si on ne regarde que ceux qui vont dans le sens, qui plaît aux gens, aux lecteurs, etc., ce n'est pas d'histoire, c'est de l'apologie, ça peut être du dénigrement. Et ça ne tient pas la route, si vous permettez cette expression-là.
Alors, vous prenez l'exemple d'une histoire partagée au Maroc entre juifs et musulmans. Mmh. Est-ce que cette histoire est ancienne?
C'est une histoire, je dirais d'abord, si on parle uniquement des juifs, en ne commençant pas avec l'avènement de l'islam qui est plus tardif, l'ancrage des juifs au Maroc remonte à plus de 2000 ans, alors que l'islam, c'est 13 siècles d'histoire. Et donc, si on rappelle cela, c'est déjà, le fait de reconnaître l'enracinement des juifs au Maroc, le fait qu'ils faisaient partie des autochtones avec les berbères, c'est déjà un indice qui me semble intéressant de la reconnaissance du fait que l'histoire du Maroc est une histoire à dimension plurielle et les juifs en sont partie prenante avant l'avènement de l'islam et après l'avènement de l'islam, c'est-à-dire sur 13 siècles à partir du 7e, 8e siècle. Si on prend la période contemporaine, c'est-à-dire 19e et plus particulièrement le 20e et encore plus particulièrement la période qui commence en 1948 avec la création de l'État d'Israël, les guerres israélo-arabes de 48, de 56 et de 67, naturellement, les répercussions de ce conflit israélo-arabe ont eu des répercussions sur la cohabitation entre le juif et musulman maroc, comme partout ailleurs dans le monde arabe, que ce soit au Maghreb ou au Moyen-Orient. Et c'est une donnée importante, et c'est d'ailleurs le conflit israélo-arabe, les guerres, etc., ça a eu un impact direct sur la présence juive au Maroc, dans la mesure où, à partir de 48, à partir de 1948, il y a eu des départs massifs, la plupart du temps clandestins, illégaux, de juifs marocains en direction d'Israël. Et il y a eu un tournant encore plus décisif, c'est 1967, avec la guerre des six jours.
Mais alors, vous rappelez évidemment que l'histoire des juifs et des musulmans au Maroc est très ancienne et que les juifs finalement étaient là antérieurement aux musulmans. Oui. Cela veut dire qu'à une certaine époque, les juifs ont accueilli les musulmans en terre juive d'une certaine façon, en tout cas en terre arabe juive. Mais est-ce que par la suite l'inverse a eu lieu ?
Je dirais ils ont accueilli les musulmans en terre berbère, donc, juive et berbère. C'est les deux composantes, disons, originelles, si on peut appeler, les autochtones, si vous voulez. C'est les indigènes du pays, dans le sens, disons, normal du terme indigène ou autochtone.
Car le Maroc, à l'époque, n'existait pas en tant que tel.
En tant que tel. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu donc avènement de l'islam et il y a eu également, par la suite, au XVe siècle, afflux de juifs autres, distincts des juifs autochtones. C'est les juifs qui ont été chassés de la péninsule ibérique dans le cadre de la Reconquista, la chute du dernier royaume musulman d'Espagne. Donc en 1492, il y a eu pratiquement 20 000 juifs venant d'Espagne et du Portugal qui sont réfugiés au Maroc. Et on a donc, quand on parle des juifs du Maroc, il y a deux grands groupes. D'une part, les autochtones, ceux qui étaient là depuis l'Antiquité, depuis à peu près le 5e siècle avant Jésus-Christ, et ceux qui sont venus après 1492. Ça, c'est de manière globale, mais avant même 1492, il y a un certain nombre de juifs qui ont fui la péninsule ibérique du fait des persécutions wisigothiques. Et comme le Maroc est juste à côté, c'est là qu'ils se sont réfugiés. Et par la suite, après 1492, et l'arrivée de ceux qu'on a appelés, que les juifs eux-mêmes appellent les Merorachim, c'est-à-dire les expulsés, il y a eu arrivée en un nombre relativement plus limité de Maran, c'est-à-dire les juifs qui se sont convertis au catholicisme pour rester en Espagne, mais qui, du fait des tracasseries dont ils étaient l'objet de la part de l'Inquisition, à un certain moment, ils ont préféré aller ailleurs. Certains d'entre eux sont allés aux Pays-Bas, et de ce groupe-là des Pays-Bas est issu un grand philosophe, Spinoza. Il appartient à ce groupe de Maran, et il y a eu des Maran qui sont installés également au Maroc et un peu partout, notamment à Fès.
Hachemaïm et Sapirim qui
Nous retrouvons la suite de notre entretien sur la place du judaïsme dans la société marocaine avec l'universitaire marocain Mohamed Kenbib, entretien enregistré en public lors des rencontres Averroès à Marseille. Est-ce que ces populations, donc juives autochtones comme juives immigrées finalement, oui, sont restées en terre marocaine jusque dans la période, jusqu'au XXe siècle ?
Jusqu'au XXe siècle. Et donc, même après les départs de 48, 56, 67, il y a toujours des juifs au Maroc. On ne connaît pas exactement le nombre. C'est autour de 3 000 à 4 000, alors qu'avant 48, ils étaient au nombre de 250 000. Répartis à travers tout le territoire marocain, alors que actuellement, ce sont des concitoyens juifs qui vivent essentiellement à Casablanca.
Est-ce que en 48 et en 67, ce sont des départs contraints ou ce sont des départs choisis ?
Ce sont des départs choisis, fondamentalement choisis, avec les encouragements de l'agence juive et de l'organisation sioniste mondiale. Et c'était des départs volontaires, mais le climat qui régnait, le déchaînement des passions du fait du conflit israélo-arabe, faisait que certains d'entre eux sentaient le besoin de partir parce que ça devenait invivable du fait du déchaînement des passions et de la propagande la voix des Arabes à partir du Caire, avec des diatribes contre les Juifs, sans distinction entre Juifs et Israéliens. Ce qui fait que ça crée une ambiance qui n'avait rien à voir avec la cohabitation qu'il y avait auparavant.
Alors 48-67, on a bien compris, le départ d'une majorité de juifs marocains vers Israël.
Pas uniquement Israël, si vous permettez, départ également en direction du Québec,
d'accord,
Canada.
Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Vous nous dites qu'il reste à peu près 2 à 3 000, 4 000 peut-être juifs marocains au Maroc. Qu'est-ce qui a poussé le roi Mohamed VI en 2011 à promulguer une constitution qui rappelle l'enracinement juif au Maroc?
Il y a, il me semble, plusieurs considérations. Il y a d'abord l'approfondissement du processus démocratique au Maroc, qui a été entamé par son père Hassan II à la fin de son règne, à partir, disons, des années 96, 97, 98. Et dans le cadre de l'approfondissement du processus démocratique, la nécessité de reconnaître la diversité des composants de la nation marocaine et de la société marocaine, reconnaissance de la culture amazigh, de la culture berbère, reconnaissance de la culture hassani, du Sahara, et reconnaissance de l'apport des gens qui sont venus d'Andalousie, à la fois musulmans et juifs, et reconnaissance, bien sûr, de cette composante juive. Donc ça fait partie de, disons, du processus démocratique. C'est l'une des retombées positives de ce processus de démocratisation, donc la reconnaissance de la diversité, du pluralisme, et c'est dit noir sur blanc donc dans le préambule de la Constitution, et bien sûr de la composante africaine et subsaharienne de la civilisation marocaine. Et il y a aussi le fait que c'était peut-être aussi un signal ou un signe, un symbole délibéré en direction du pratiquement 1 million de juifs d'origine marocaine qui vivent aux quatre coins de la planète, que ce soit en Israël, au Canada, en France et ailleurs. D'autant plus que dans le code de la nationalité marocaine, la nationalité marocaine ne se perd pas.
C'était justement ma question. Il y a une diaspora juive marocaine extrêmement importante. Vous venez de le rappeler, évidemment en Israël, mais aussi dans d'autres lieux, notamment au Québec,
voilà,
et en France. Donc il y a potentiellement une forte population qui n'est pas musulmane, mais qui serait marocaine et qui pourrait, pourquoi pas, un jour revenir au Maroc. C'est possible,
hein? C'est ce qu'a dit Hassan II à plusieurs reprises. Hein, les juifs d'origine marocaine sont considérés comme des citoyens marocains, des ressortissants marocains, et les portes leur sont ouvertes. D'ailleurs, ils viennent souvent, certains d'entre eux viennent d'Israël, de France, etc. Ils viennent en pèlerinage sur la tombe de leur saint. Il y a ce qu'ils appellent des hiloulot, c'est-à-dire des festivals qui se tiennent autour des mausolées de saints gardés par des musulmans. Ils viennent se recueillir sur les tombes de leurs parents ou de leurs ancêtres. Ils viennent pour le tourisme. Certains d'entre eux viennent pour des affaires. Et ce qu'il y a, c'est ce qu'on me raconte, hein, ce qu'ils racontent, quand ils présentent leur passeport étranger et que le policier voit naissance à Casablanca, etc. Bienvenue chez toi. C'est en général la formule qui est prononcée. Marhaba, bienvenue.
Mais est-ce que c'est une position dans le monde arabo-musulman qui est assez inhabituelle? La tendance générale dans beaucoup de pays de la région, l'Égypte, mais aussi la Syrie bien entendu, et d'autres, c'est finalement se couper de cette racine historiquement présente dans le pays. Pourquoi le Maroc fait-il exception?
Il y a d'abord le fait que la communauté juive du Maroc représentait la communauté juive du monde arabe. Avec 250 000, c'était la communauté la plus importante donc, au niveau du monde arabe. Et il y a deux phénomènes convergents. D'un côté, la volonté du Maroc et des pouvoirs publics du Maroc, et notamment de la monarchie, de garder des liens étroits avec les gens qui sont partis. Et il y a également, du côté des juifs qui sont partis, leur attachement à l'identité marocaine. Et dans le cas d'Israël, c'est très net, parce qu'au départ, ce sont des gens qui ont été plus ou moins malmenés par l'establishment ashkénaz. Et le fait de rester attaché à l'identité marocaine, c'est de rester adossé au Maroc, au roi du Maroc, et ça leur donnait du poids dans, disons, leur tractation avec les ashkénazes, de manière à améliorer leur situation.
La population marocaine, lambda, on va dire, passez-moi l'expression un peu triviale, est-ce qu'elle accepte cet état de fait?
La majorité, en tout cas ceux qui ont côtoyé des juifs, les anciennes générations, vivent le départ des juifs comme une, et je pèse mes mots, une amputation. Et du côté des juifs, les choses se sont passées, ceux qui sont partis se sont passées de manière tellement rapide, il y a eu une sorte d'accélération de l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale, liés, enfin les départs sont aussi liés à ce qui s'est passé en Europe. La Shoah, l'extermination des Juifs, etc. Et donc ça a encouragé les gens à aller en Israël, aider, enfin en Palestine, aider à la mise en place d'un État juif. Donc il y a du côté des musulmans cette même nostalgie pour le vivre ensemble d'antan, si je puis dire. Et actuellement, l'un des phénomènes les plus remarquables, c'est la prise en main par les musulmans de la part juive, de la culture et du patrimoine marocain. Donc il y a un tas d'associations dans la société civile qui s'occupent, qui sont partie prenante dans, cette réappropriation, si on peut appeler ça comme ça. Et il y a un indice vraiment frappant, c'est qu'il y a un musée du judaïsme marocain, donc c'est pratiquement le seul dans le monde arabe, et il y a également un groupe scolaire, à Casablanca en particulier, qui s'appelle Maïmonide, et le nom de ce philosophe est significatif, où la majorité des élèves sont musulmans et apprennent l'hébreu, et ils sont plus forts en hébreu que leurs camarades juifs, parce que bon, du fait qu'ils maîtrisent l'arabe, ça facilite la maîtrise de l'hébreu aussi. Et dans les médias, là aussi, il y a énormément d'articles et de dossiers consacrés au judaïsme marocain. Il y a même, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est un mensuel, première de couverture, Maroc, terre juive, comme ça. Et un autre périodique de même nature, première de couverture, le titre « La part du juif qui est en nous, soi-disant, sous-entendu, musulmans ». Et bien sûr, il y a des courants extrémistes radicaux qui n'acceptent pas tout à fait cela, mais il y a une partie importante de la société civile qui intègre sans aucun problème cette part de la culture et du patrimoine et de l'identité marocaine.
On peut donc écrire une histoire apaisée.
Il me semble. Si on prend les précautions nécessaires, de manière à ne rien négliger d'essentiel, de manière à être responsable dans la formulation de ce qu'on dit, et en se fondant sur, en croisant les sources, les archives marocaines, les archives françaises, les archives britanniques, les archives américaines. Mais pour celui qui écrit, enfin pour l'historien, c'est une question de responsabilité, mais c'est aussi une question de crédibilité. Parce qu'on n'écrit pas à destination du public marocain, on écrit pour une contribution. Enfin, personnellement, ma conviction, c'est que la recherche ne s'arrête jamais et on apporte sa pierre et il faut que cet apport soit crédible. Ce qu'on dit au Maroc, on pourrait le dire en Israël, on pourrait le dire en France, aux États-Unis. Et s'il y a des remarques, on peut discuter sur des bases, disons, objectives, sans parti pris d'aucune sorte.
Merci Mohamed Kembib.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Mohamed V de Rabat. Votre dernier ouvrage paru, « Juifs et musulmans au Maroc, des origines à nos jours », c'est chez Talendier cette année. Cette émission a été enregistrée à l'occasion des rencontres Averroès à Marseille, dont le thème était cette année « Surmonter la faille », déclinée en quatre thèmes, faille généalogique, faille historique, faille géopolitique et faille dans la cité. L'analyse de la conjonction de ces lignes de faille ouvre un immense champ de réflexion et de débat qui était au cœur de ces rencontres d'Averroès. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo ainsi que la revue de presse Israël Monde Arabe sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons les questions de mémoire au Liban liées à la guerre civile, aux disparitions et au retour difficile des exilés à travers le film Go Home de la réalisatrice Jeanne Schweb. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.